Voilà, nous ouvrons la parole de Dieu dans le livre des Philippiens, les deux derniers versets du chapitre 3 et les neuf premiers du chapitre 4. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, très chère famille de Dieu, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, famille de Dieu, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Quel programme, hein ! Ce sont, je pense, des versets bien connus pour nous. J'ai exprès lu dans la très vieille version, parce que c'est dans celle-ci qu'il y a très longtemps, j'ai mémorisé au moins 3-4 versets de ce passage, parce qu'ils sont tellement importants et qu'ils nous tiennent à cœur. Ben, je voulais vous parler du verset 8 ce matin. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, etc., soit l'objet de vos pensées. En fait, cette parole, elle s'est fait entendre à Soraya et à moi il y a quelques semaines, et on s'est dit, ben, c'est bien de prendre du temps, de réfléchir à nouveau, et de, surtout de faire ce que Paul nous dit. Et donc, on a mémorisé ou remémorisé cette parole, et au bout de quelques jours, il a fait de l'effet. Et c'est intéressant, chacun de son côté, on est resté accroché sur le premier mot. Que ce qui est vrai. Tellement il y a des choses à méditer, à recevoir, qu'on s'est arrêté là et ça a été fructueux et bénéfique pour chacun d'entre nous. Mais bien sûr, pour en parler ce matin, j'ai regardé plus loin, j'ai cherché un peu, j'ai vu des commentaires, des dictionnaires bibliques et des prédications. Et ben, du coup, je suis obligé de vous parler de tout le passage. Mais dès le début de la réflexion sur ce qui est vrai, ben déjà, on se pose la question, qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce que la vérité ? C'est des questions absolument fondamentales. Et mon premier constat, avant même de m'approcher du Seigneur, c'est une rage, parce que je trouve que c'est un très grand problème. Le grand problème de notre société moderne. Depuis trop longtemps, je pense, depuis plusieurs générations, la notion de vérité a été relativisée en prétextant qu'on ne peut pas la définir objectivement. Et du coup, chacun doit en quelque sorte définir la vérité. Et ça devient donc sa vérité selon son idée, voire même selon son sentiment. Voilà un peu où je trouve qu'on en est aujourd'hui, et de sorte qu'en abandonnant petit à petit ce que j'appelle la notion de vérité objective, c'est-à-dire la vérité factuelle, les choses qu'on peut vérifier, la vérité historique qu'on peut prouver, ben petit à petit, on rejette la réalité, on s'en éloigne et nos idées et sentiments prennent la place et on ne sait plus très bien. Et je pense que c'est une des grandes raisons pour laquelle notre monde est si chaotique, si instable aujourd'hui. Il y a tant de voix différentes qui nous interpellent, tant de sollicitations, nous avons aussi tant de défis à relever pour nos valeurs, etc., de choix à faire. Et aussi, dans un monde qui va si vite, j'ai écrit dans le Quad Neuf que le temps s'accélère, ben, il y a aussi beaucoup d'inquiétudes devant l'avenir, beaucoup d'inconnus, d'incertitudes. Alors que nous avons tellement besoin de repères, d'équilibre, de stabilité. Dans ce passage, ça nous touche lorsqu'il est dit nous aspirons à la paix de Dieu, telle qu'elle est présentée ici. Cette paix qui surpasse toute intelligence, qui garde nos cœurs en Christ. Et je crois que vraiment, c'est le besoin fondamental de tout être humain, qu'il le réalise ou qu'il l'accepte ou le rejette, c'est cela. Nous avons vraiment besoin de cette paix de Dieu pour donner du sens à tout cela et pour stabiliser notre vie. Donc voilà un aspect, mais heureusement, je ne suis pas resté longtemps là-dessus parce que c'est négatif de penser à tout ce qui ne va pas. Mais ce qui est formidable en essayant de penser à ce qui est vrai, c'est tout simplement de revenir à la Bible. Et la première parole qui vient, c'est que Jésus a dit « Je suis la vérité ». Jésus est la vérité. Et en disant ça, nous pouvons aussi dire « C'est Dieu la vérité, c'est de toute source, source de toute vérité ». Et par là, nous avons la Bible. C'est dans la Bible que nous avons les paroles de Dieu. Et c'est tout simplement bénéfique pour nous de le redire. On le sait, la plupart d'entre nous le savent et le croient. Mais c'est bon de le dire, de répéter les promesses de Dieu, de savoir qu'elles sont vraies. Lorsque dans Philippiens 1, l'apôtre dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé cette œuvre en vous va l'amener jusqu'au bout, jusqu'au jour de Christ. » C'est vrai. Et nous pouvons recevoir ces paroles. Donc, en fait, en pensant à ce qui est vrai, très très vite, on se met à louer Dieu. Et en quelque sorte, louer Dieu sans cesse, c'est répondre à cette parole de penser, de mettre cette pensée, ce qui est vrai, vraiment devant nous. Parce que ce qui est vrai, c'est le message de l'Évangile que nous découvrons dans la Bible. Jésus est cette vérité qui rend libre. Vraiment, et c'est la Bible qui révèle la vérité concernant Dieu, concernant l'éternité, concernant le jugement, concernant la gloire qui attend les enfants de Dieu. Et donc ce qui est vrai nous conduit à adorer Dieu, parce que c'est la révélation de l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ, qui en vivant sans péché et en portant mes péchés à la croix, est mort et est ressuscité. Ça aussi, c'est une vérité, c'est la vérité fondamentale. Si ça n'est pas vrai, notre foi est vaine. Et Paul l'avait déjà dit. Voilà, donc c'est formidable. Mais, sinon j'arrête le message là, en fait, mettre en pratique ces paroles, c'est pas si facile, parce que c'est une chose de décider de penser à toutes ces choses. Les réaliser, surtout dans la durée, on est dans un chantier. C'est un combat. Et pour utiliser le vocabulaire de Joyce Meyer, « the battlefield of the mind », nos pensées, c'est un champ de bataille. Et ce n'est pas gagné comme ça. D'accord ? Donc, d'ailleurs, ce verset, je l'ai appris depuis des années. Donc on a besoin d'aide, on a besoin de stabilité, on a besoin d'un stabilisateur. Alors permettez-moi de digresser un instant et de vous parler de stabilité au sens des systèmes physiques dynamiques. D'accord ? Tout ce que de nombreux physiques, systèmes conçus par l'homme, les navires, enfin du moins en termes de systèmes dynamiques, d'accord, qui doivent évoluer ici en mer, ou les aéronefs, et plus récemment les drones ou les caméras, ils sont équipés de stabilisateurs internes pour les maintenir à l'équilibre et aussi pour contrer toutes les turbulences ou autres perturbations qui pourraient déstabiliser le système. Et le fait d'avoir eu comme capteur le gyroscope a vraiment révolutionné la sécurité sur les navires, dans les avions et dans tous les systèmes qui en ont besoin pour bien fonctionner. Donc on en a absolument besoin. Et certains systèmes sont nécessaires tout simplement pour que le système reste stable. Et donc, comme exemple plus facile à tenir dans la main, voilà. Je sais que vous n'allez pas me croire que ce n'est pas un jouet. Personne ne me croit. Voilà. Donc je vais appeler ça un objet pédagogique. Ce petit drone à 4 quadrirotors, pour pouvoir en fait tout simplement décoller et rester sur place, il a besoin de ce stabilisateur interne. Donc je vous ai parlé du gyroscope qui mesure les vitesses angulaires du drone, et pour le navire aussi, il va contrôler le roulis. Donc c'est basé sur une mesure précise physique de la réalité. Et donc on associe ça, aujourd'hui on rajoute beaucoup plus encore. Alors pourquoi est-ce que je peux le tenir dans la main ? C'est parce que maintenant le gyroscope tient dans un petit composant électronique, dans même, il y a aussi un accéléromètre, une boussole, il y a même beaucoup d'autres choses, donc sur 2-3 mm carrés, cube, on va dire c'est en 3, vous avez donc ce capteur fantastique qui est associé à des algorithmes pour une partie est calculée, et associé à une commande, va nous donner exactement quelles sont les commandes à donner à chacun des moteurs pour que le robot s'équilibre. Donc c'est un asservissement, c'est une boucle fermée avec un taux de rafraîchissement très très important, de l'ordre de la milliseconde, et qui permet, ouais, on n'y pense pas, et qui permet à ce drone de décoller et de rester là sans bouger parce qu'il a ses stabilisateurs qui sont puissants. Et même en phase de perturbation, s'il y a un vent, s'il a les capteurs pour connaître ce vent, pour détecter, ben, il va les compenser. Voilà. Et pour aller encore un pas plus loin, des choses qui... Parce que vous utilisez ces petits drones sans y penser, vous voyez, donc il est à l'équilibre, mais si je me déplace, il ne sait se déplacer qu'en le déséquilibrant un peu, d'accord ? Et vous voyez que là, vous n'avez peut-être pas la caméra, mais elle a une caméra fixée au corps du drone. Donc quand vous faites ça, ben, vous voyez bien que la caméra elle penche, d'accord. De même, lorsque vous avancez, il fait ça, après il revient. Ben, grâce à ces informations de ces capteurs, on peut corriger et stabiliser l'image. L'image même de ce petit drone à quelques dizaines d'euros est parfaitement stable. Et vous connaissez peut-être ces caméras, les caméras GoPro et d'autres encore, qui vous donne une image qui est toujours stable. Vous pouvez même la prendre et la lancer de toutes vos forces quelque part, et l'image qu'elle va prendre sera toujours stable, équilibrée, grâce à ce moyen. Donc on a aujourd'hui, grâce à la technologie, on a un outil qui nous permet de stabiliser le système, et on a ça partout, d'accord ? C'est juste un exemple. Nous-mêmes, nous avons notre oreille interne qui nous donne cette stabilité, la stabilité du regard. Si vous chopez un virus qui vous handicape à ce niveau-là, vous ne pouvez plus rester debout, d'accord ? Vous restez couché, vous n'êtes plus capable, vous ne savez plus si vous levez la tête ou si vous la baissez. Donc nous aussi, on a des systèmes de ce type de stabilisation. Voilà, donc ça c'était juste pour vous dire, pour faire le parallèle avec ce que Paul nous propose ici dans ce texte. Nous, on a besoin d'un stabilisateur puissant équivalent à ce que je viens de décrire pour contrer les turbulences de notre vie. Et l'apôtre Paul, il veut nous diriger dans cela, nous le montrer, car lui aussi, il a vécu, il a eu d'énormes turbulences dans sa vie, et au moment où il écrit, il est en prison avec la menace d'une condamnation à mort. Il a fait face à tant de défis dans sa vie, mais il reste debout, stable, équilibré, et il nous invite à faire comme lui. Alors comment fait-il ? Si on regarde au verset 1, il nous l'explique, ou du moins il nous dit comment faire. Il dit « Demeurez ainsi ferme dans le Seigneur ». C'est le « ainsi ». Dans d'autres traductions, il est dit « Tenez ferme de cette façon dans le Seigneur ». Donc il dit « Voilà comment vous pouvez tenir ferme ». Donc Paul nous l'explique dans ce passage. Il va d'abord nous donner un principe pour rester stable et ensuite une méthode pour l'appliquer. Le principe, et c'est un principe général que Paul utilise tout le temps pour toutes les situations, pour toute opposition, pression, stress, turbulence, changement. Son principe, c'est celui-ci. Il enseigne les grandes vérités éternelles de l'Évangile et il les applique aux défis simples, quotidiens de la vie. Et il suit toujours ce schéma. Quand on lit ces lettres, beaucoup d'entre elles, la première partie, c'est des chapitres de doctrine, pensez à Éphésiens, Colossiens ou à Romains, et ensuite seulement vient l'application. Alors voyons ici ce principe dans l'exemple de ce texte. Donc vous voyez, le verset 1, il commence avec « c'est pourquoi ». Et c'est pourquoi j'ai rajouté les versets 20 et 21 du chapitre précédent qui font le lien. Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. De quoi Paul parle-t-il ? En fait, quand nous regardons autour de nous, il nous faut réaliser que dans ce monde, rien ne dure, rien n'est permanent. L'amour n'est pas permanent. Même si vous êtes très heureux dans votre mariage, il ne dure pas éternellement. D'accord ? Il y a tout ce qu'on voit, nos amis, etc. À un moment, ça s'arrête. La joie n'est pas permanente dans ce monde. Ta force ne l'est pas non plus. Rien ne dure. En fait, cet endroit, ce monde, est un endroit temporaire. Et pourtant, au fond de nous, nous savons que nous avons été faits, nous avons été créés pour un tel endroit, où les choses durent, les choses perdurent. Et dans ces versets 20 et 21, c'est ce que Paul dit. Il dit qu'il y a un endroit. Un endroit où quelqu'un est assis sur un trône qui dit « Voici, je fais toute chose nouvelle. » Ce qui veut dire que dans sa présence, dans la présence du roi de l'univers, dans la présence du Seigneur, les choses non seulement elles durent, mais elles deviennent plus fortes, elles se renouvellent et elles deviennent plus brillantes à chaque seconde, avec chaque seconde qui passe. Et c'est pour toujours, c'est pour l'éternité. Il existe donc cet endroit qui est décrit en fait dans ces versets. Donc Paul, il dit ça, il dit une vérité fondamentale. Et après, qu'est-ce qu'il fait ? Verset 1, il se tourne vers les Philippiens et leur dit « Tenez ferme de cette façon, ainsi. » Voilà. Et tout de suite après, verset 2, il l'applique. Il l'applique à une querelle entre deux de ses amies, femmes, qui étaient ses collaboratrices dans l'église de Philippe. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Que fait Paul ici ? Paul, il ne traite jamais même le plus petit des problèmes, le problème, la situation la plus terrestre, sans le placer dans le contexte de l'histoire de la rédemption. C'est sa méthode. Il met toujours les choses éternelles au centre. Alors comment traite-t-il cette querelle entre ces deux femmes ? Il leur dit « Souvenez-vous de tout cela ». Il ne part pas à la méthode ou à une technique. Il ne leur dit pas « Voilà, j'ai une technique pour la réconciliation entre personnes. Il y a l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. C'est une méthode d'écoute, c'est une méthode de résolution de problèmes et j'aimerais que vous suiviez cette méthode ». Non, Paul ne fait pas comme ça. Mais, si vous réfléchissez, pas pour cette situation, mais nous, on aime faire comme ça. D'accord ? Le stabilisateur, on aimerait bien l'acheter dès qu'il est prêt, même celui qui va nous donner l'équilibre et le calme. D'accord ? On veut toujours sauter sur la réalisation, la solution, avant de penser, de travailler à l'essentiel. Et ce n'est pas ce que Paul fait. Il ne commence pas par la méthode. Il leur dit, mes sœurs, souvenez-vous d'où vous êtes. Vous êtes citoyennes des cieux. Souvenez-vous où vous allez, vers la gloire de Dieu. Vos corps vont être transformés. Vous allez être avec le Seigneur toujours. Réalisez ce que Christ a fait pour que ce soit possible, pour que ça devienne vrai. Et donc, si vos pensées sont remplies de ces choses, alors quelle place y a-t-il pour la mesquinerie, pour la petitesse, les bagatelles? Comment peut-il y avoir des divisions en présence de telles vérités? Paul leur dit, élevez vos pensées, levez vos regards, vous n'avez pas la bonne perspective, c'est la seule explication que je vois pour que vous soyez fâchés l'une envers l'autre. Et ce que Paul dit là, c'est comme ça qu'il vit, c'est son exemple. Quand Paul dit « Suivez mon exemple », quelques-uns d'entre nous se disent « Mais pour qui ? C'est pas lui Jésus ?» quand Paul dit cela, c'est pour qu'on suive vraiment comme lui, de mettre les choses spirituelles, les choses éternelles en premier. Paul nous fait toujours penser à l'éternité, au jugement, au sens de la vie. Il pose des questions essentielles. Chaque instant, il parle d'éternité. Pour chaque incident, événement, il parle de Dieu, de la grâce et de la vérité, de la lumière et des ténèbres. Voilà le principe. Et maintenant, pour notre stabilité, voici la méthode. Paul, il propose, il y a certainement beaucoup d'autres choses, mais j'aimerais vous parler en fait de deux choses qu'il nous invite à faire, de deux pratiques, de deux disciplines auxquelles il nous invite à nous soumettre. Et la première, c'est la discipline de la prière associée à la reconnaissance, ou je vais dire ici la prière avec action de grâce. C'est la première chose qu'il nous dit. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Alors, il y a beaucoup de formes de prière, mais ici, ce qui est particulier, c'est que c'est une prière accompagnée d'actions de grâce. Et on peut se demander, mais comment ça marche ? On prie, le Seigneur répond, et je lui rends grâce. Mais ce n'est pas ce que Paul dit ici. Il dit, les choses se font en parallèle. Je prie et en même temps, je rends grâce. En fait, il y a un processus ici que l'apôtre Paul nous propose. En quelque sorte, il dit, tandis que vous suppliez, que vous demandez intensément, intercédez auprès de Dieu, en même temps, rendez grâce. À l'avance, en passant en revue tous les cas de figure, toutes les réponses possibles que le Seigneur peut faire. En fait, en faisant ainsi, Dieu peut travailler en nous, travailler dans notre cœur, et c'est important d'envisager les différentes façons dont le Seigneur peut répondre et de rendre grâce à l'avance. La Bible nous dit que Dieu n'a pas créé le monde pour qu'il soit instable ou confus, comme il l'est aujourd'hui. C'est la souffrance et la mort sont le résultat de notre séparation de Dieu à cause de notre péché. Mais Dieu ne s'est pas retiré du monde. Il est toujours souverain dans ce monde et il a un plan pour notre vie, de sorte que tout ce qui arrive dans notre vie, que ce soit difficile ou carrément mauvais, que ce soit aussi facile ou bon, tout cela a pour but de nous construire, de nous faire grandir. Et j'aimerais vous lire quelques mots de John Newton, qui est l'auteur de nombreux cantiques, et notamment Amazing Grace. Voilà comment il exprime ce point. Il dit « Tout est nécessaire de ce que Dieu envoie. Rien n'est nécessaire de ce que Dieu retient. Comme ils sont heureux ceux qui peuvent tout lui remettre. Ceux qui voient sa main dans chaque épreuve. Ceux qui ont confiance qu'il fait pour eux de meilleurs choix qu'eux-mêmes pourraient faire. Fidèles sont les blessures de cet ami qui a lui-même été blessé et mis à mort pour nous et qui maintenant règne sur tout. Christ est souverain sur nos épreuves. Il compte jusqu'aux cheveux de nos têtes. Et il nomme chaque épreuve que nous rencontrons. Et son intensité, il sait tout cela. Et il ne laissera rien nous arriver qui ne puisse contribuer à notre bien. Quel réconfort de savoir que nos afflictions ne nous arrivent pas au hasard, mais qu'elles sont sous la direction d'une sagesse et d'un amour infini. Et elles travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment le Seigneur. Jusque-là, les paroles de la citation de John Newton. Donc, par la prière avec action de grâce, nous nous mettons à voir le monde au travers de la vérité transcendante de l'amour de Dieu et de la sagesse de Dieu. Chaque fois que nous souffrons, chaque fois que il y a quelque chose qui va mal, nous l'apportons à la croix pendant cette prière. À la croix, nous contemplons la plus grande œuvre d'amour et de sagesse dans l'histoire de l'humanité. Et devant la croix, nous disons, Seigneur, je ne comprends pas comment tu vas faire, mais je te remercie par avance pour tout ce que tu vas faire dans ma vie, par ce que je vis en ce moment. Donc voilà pour la première discipline, donc de remettre toute chose à notre Dieu d'amour et de sagesse, par la prière reconnaissante. J'ai une deuxième discipline pour mettre en pratique, à mettre en pratique dans nos vies pour notre stabilité. Alors, son titre nécessite une explication. Je vous donne le titre. C'est le filtre de la modération divine. La deuxième chose à faire pour renforcer nos stabilisateurs internes qui nous permettent de rester stables et équilibrés, quelles que soient les perturbations, quelles que soient les attaques extérieures ou intérieures, cette seconde discipline consiste à nous décentrer de nos circonstances. D'accord ? À nous décentrer de nos circonstances en appliquant le filtre de la modération divine. Je vais bien sûr m'expliquer. D'où ça vient ? Où est-ce que tu as trouvé ça dans ce passage ? C'est quel verset ? C'est le verset 5. Nous avons lu tout à l'heure que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Alors, vous ne voyez pas encore que c'est le mot douceur, mais on va y arriver. D'abord, une petite remarque. En fait, ici, il est quand même dit quelque chose de très très fort. Il est dit de ce mot douceur, qu'elle soit connue. Donc c'est quelque chose qui nous caractérise, qui se voit, qui à un moment se voit en nous. Alors, je vous donne quelques autres traductions de ce mot. Que votre bonté, que votre bienveillance, que votre patience, que votre attitude conciliante. Et enfin, j'ai cherché loin, c'est la King James Version. Let your moderation be known. Que votre modération soit connue de tous les hommes. Alors vous allez me dire, c'est trop vieux, on ne parle plus comme ça. Mais je n'ai pas trouvé mieux pour l'instant. Voilà. En fait, le mot grec semble difficile à traduire ici. Voici ce qu'il signifie. Il veut dire une constance d'humeur complète, radicale. En quelque sorte, si je l'applique ici au verset, faites preuve d'une humeur constante, quelles que soient vos circonstances. Et si je le dis ici, que votre humeur stable soit connue de tous. Le Seigneur est proche. Voilà ce que je vous propose comme formulation ici, dans ce verset. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment nous décentrer de nos circonstances? En fait, Paul nous l'explique. Il y a quelques versets dans 1 Corinthiens 7, on ne va pas les projeter, mais je vais vous lire l'essentiel. C'est les versets 29 à 31. Et je vais juste dire ce qui m'a parti. Donc j'extrais, je n'explique pas le contexte. Le verset 29 nous dit « Il reste peu de temps ». Et parce qu'il reste peu de temps, le verset 30 dit « Que ceux qui pleurent vivent comme s'ils n'étaient pas tristes. Que ceux qui rient vivent comme s'ils n'étaient pas joyeux. » Ensuite, il continue la liste. Et à la fin du verset 31, il dit « Car ce monde tel qu'il est, ne durera plus très longtemps. » Donc l'argumentation avant et après, il reste peu de temps, c'est important, et après, ce monde tel qu'il est ne durera plus très longtemps. Et donc, il dit donc deux choses, que ceux qui pleurent vivent comme s'ils n'étaient pas tristes. Oui, en tant que chrétien, je peux dire, je suis triste, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu ma santé, j'ai perdu un bien-aimé, oui, je pleure, mais quelque part, au fond de moi, je ne suis pas anéanti. C'est très dur, mais je sais qui je suis, mes racines sont en Christ, j'ai l'espérance du salut. Le chrétien, il est triste, il vit des choses très difficiles, mais il y a l'espérance du salut en lui qui le porte et qui lui permet de rester debout et de continuer parce qu'il sait qui il est et où il va. Que ceux qui rient vivent comme s'ils n'étaient pas joyeux. Ah, ça, c'est rabat-joie, dit comme ça. Il y a des bonnes nouvelles qui nous arrivent. J'ai eu une promotion. Je suis victime de succès. Que fait le chrétien alors ? Ben, il fait comme David, au psaume 103, il parle à son âme. « Mon âme, du calme, assieds-toi et pense. Mon âme, tu es dans la joie, c'est bien, mais rappelle-toi, ce n'est pas l'essentiel. Et cela pourrait bien ne pas durer. » Et à la fin, on sait bien que ça ne peut pas durer toujours. « Donc, mon âme, ne t'exalte pas trop. » Ne te gonfle pas trop. Donc si nous nous appliquons le filtre de la modération divine, c'est bon maintenant, le titre. Je vais simplifier. Si nous nous plaçons sous la grâce de Dieu, ou si nous appliquons la grâce de Dieu sur nos vies, cette humeur stable, équilibrée, va se rendre visible dans nos vies. Parce que vous voyez, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand j'ai fait ma liste, la liste bonté, douceur, etc., je l'ai plus sous les yeux, ça ressemblait quand même à une partie du fruit de l'esprit dont Paul nous parle dans Galates 5, 22. Et c'est bien ça, en quelque sorte. C'est un fruit de l'esprit. Et donc, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous qui peut le rendre visible dans nos vies. Donc, comment puis-je appliquer la grâce de Dieu sur ma vie ? Ben, regardons les versets précédents. Donc, on fait les choses à l'envers aujourd'hui. Verset 4, « Réjouissez-vous !» Paul dit aux Philippiens, « Réjouissez-vous !» Il le répète même. Et pourquoi ? Il y a tant de raisons aussi. Mais si on regarde la fin du verset 3, c'est quoi ? C'est suite à la dispute. Qu'est-ce qu'il dit, Paul ? Il dit que Évodie et Saint-Tiche, il dit que tous les autres, que Clément, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont leur nom dans le livre de vie. Leur nom est inscrit dans le livre de vie. Et après, il est dit « Réjouissez-vous » au verset 4. Et ça me fait penser à ce que Jésus nous dit, Luc 10, versets 17 à 20, au moment où les 70 disciples, ils reviennent de leur mission, et Jésus est là et il leur demande « Ça a été comment, cette mission ?» Et là, ils sont tout excités, surexcités. Je vais vous le dire parce que moi aussi. Ils sont pleins de joie et ils disent « Seigneur, même les démons nous obéissent quand nous leur donnons des ordres en ton nom. » Et Jésus répond « Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous obéissent, réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Jésus approuve leur joie, mais il leur rappelle que c'est lui qui leur a donné cette autorité pour écraser la puissance de l'ennemi. Mais ce n'est pas de cette joie qu'il faut être animé, parce qu'elle aussi, elle est temporaire. Demain, tu rencontreras peut-être à nouveau un démon que tu ne pourras pas chasser. D'ailleurs, la veille, ou du moins le chapitre précédent, Jésus descend de la montagne de Transfiguration et il trouve une partie de ses disciples essayant de chasser un démon auprès d'un jeune et ils n'y arrivent pas. Ça, c'était hier, ils avaient déjà oublié quand ils sont revenus. Et demain, Jésus enseigne à ses disciples de se décentrer de leurs circonstances pour se recentrer sur les valeurs éternelles. Arrêtez de vous réjouir dans vos circonstances, car ce n'est pas essentiel, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Dans l'Ancien Testament, le grand prêtre avait le nom de chaque tribu d'Israël inscrit sur une pierre précieuse qu'il portait sur la plaque, le pectoral, qu'il portait sur son cœur quand il se présentait devant Dieu. Jésus-Christ, c'est lui notre grand prêtre qui a notre nom inscrit sur son cœur quand il se présente devant le Père, de sorte que quand le Père nous voit, à travers Jésus, il voit notre beauté. Nos noms sont inscrits dans le ciel, dans le livre de vie. Et ce que Jésus dit, Paul le dit également, la raison pour laquelle vous ne savez pas gérer vos circonstances, c'est parce qu'à ce moment-là, vous oubliez l'essentiel. Vous avez oublié votre position, qui vous êtes, ce qui a été fait pour vous. Vous avez oublié ce que signifie que Jésus-Christ est votre Sauveur. C'est pour ça que Jésus nous dit de nous décentrer de nos victoires, d'être prudents, d'user de modération. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. C'est ce que nous voulons faire tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, dans toutes les circonstances, bonnes ou mauvaises, nous disons « Mon nom est écrit dans les cieux ». Et moi, où j'en suis ? Est-ce que ces réalités, elles affectent tout ce que je fais ? Et je réponds honnêtement pour moi, non. Non, parce que je suis le premier à oublier que je suis qui je suis en Christ et je dois justement me le rappeler, comme je viens de l'indiquer, tous les jours, à toutes les heures. Mais, comme vous, je suis en route. La Bible nous donne ces disciplines pour continuer. Alors que nous continuons, c'est Dieu qui fait cette œuvre en nous, qui nous encourage à aller plus loin. La conclusion, je n'ai pas parlé de paix, qui est ce à quoi nous aspirons, la paix de Dieu à laquelle nous aspirons. En fait, au verset 7, on voit qu'elle est donnée comme une conséquence, un résultat de notre pratique de la prière avec action de grâce, de notre décentrage de nos circonstances. C'est comme si ça venait, du coup, tout seul, et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. Et là, on arrive de nouveau au verset 8. D'un côté, c'est Dieu qui le fait, et au verset 8, Paul dit au reste, famille de Dieu, que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. On boucle. Et si nous le laissons faire et si nous faisons ce que nous pouvons, regardez la conclusion, verset 9, le Dieu de paix, alors le Dieu de paix sera avec vous. Nous cherchons la paix avec Dieu et Dieu fait infiniment plus. C'est lui qui vient, c'est sa personne. Jésus a dit « Voici, je suis avec vous tous les jours ». Dieu nous offre sa présence et que nous voulons chercher. Je vous invite à prier. Seigneur, en pensant à ces passages, à tout ce que tu nous dis dans ta parole ici, j'en ai un peu le vertige, parce qu'à la fois, Seigneur, je suis repris, parce que je ne sais pas bien mettre en pratique ces disciplines, ou je ne le fais pas bien, et en même temps, Seigneur, je suis émerveillé de ton amour, de ta sollicitude, de la clarté de tes écritures pour nous inviter à te mettre au centre de nos vies, pour te remettre toutes nos circonstances, afin, Seigneur, que tu nous diriges, que tu nous donnes ta paix, que tu nous donnes ta présence. Seigneur, que ce que nous avons entendu aujourd'hui, nul ne soit découragé, Seigneur, mais que chacun d'entre nous, Seigneur, tu touches notre cœur pour te chercher à mettre tes pensées en premier, à mettre les choses importantes dans nos pensées, à avancer avec toi. Et par Seigneur, c'est toi, à l'aide de ton esprit, qui le fait. Amen.